Salut, c'est Marco.
Salut, c'est Nico.
Et vous êtes sur le Barboteur.
Il est précisément l'heure qu'il est chez vous et vous écoutez The Beer News. Ici Marco et Nico sur The Barboteur Podcast. Moine opportuniste.
La brasserie anglaise Northern Monk a investi 500 000 livres pour augmenter sa capacité de production de 20%. De quoi se payer quelques palettes de seaux en plastique / barboteur destinés à fermenter. Oh, ou d'autres choses, hein, ils savent ce qu'ils font. La différence entre la bière belge et la bière belge.
Après 6 mois d'ouverture, le Belgic Beer World, situé dans le bâtiment de la Bourse de Bruxelles, a dressé un premier bilan. En moyenne, 300 entrées par jour ont été enregistrées sur les 1000 attendues. Les privatisations ont-elles enregistré un chiffre d'affaires astronomique de 900 euros sur les 38 000 attendus? Visiblement, payer 17 euros pour se fader des bières Indus, c'est pas vendeur. IA toutes les sauces.
Imaginez que l'on recoupe 180 000 avis de Rate Beer, couplé à des dégustations d'experts de 250 bières belges sur 50 critères, et qu'on y ajoute les 226 composés chimiques détectés dans ces bières, tout ça dans une IA, pour prédire le rendu d'une bière et proposer des améliorations. Eh bien, c'est ce qu'a fait une équipe scientifique du CUL. On ne sait pas où c'est, c'est en Belgique. Et ça s'écrit avec un K. Et le L, il se prononce.
Voilà encore un domaine où je préfère l'imperfection humaine.
Un sondage presque parfait.
Le baromètre Sowine Dinata, cette photo printanière dépeignant le portrait pochtronomique français, a pointé le bout de son nez. On y apprend que sur le podium des boissons préférées, la bière a chuté au second rang avec 58%, au profit du vin avec 60%. Ce dernier qui a vu son score augmenter de 5% où la bière n'a pas bougé. Rien d'inquiétant donc.
D'ailleurs, si on zoome spécifiquement sur la bière, on y découvre un classement par couleur qui truste le podium. Blonde, blanche, brune, ambrée et en queue de peloton deux catégories, IPA à 40% et sour à 25%. Preuve s'il en est qu'il reste encore beaucoup de travail de pédagogie, y compris pour les instituts qui formulent ces sondages. Et voici maintenant une sélection d'actu qu'on n'a pas voulu vous dire, mais qu'on va vous dire quand même.
Les trois brasseurs deviennent une great place to work.
JV pète toujours les scores sur le crowdfunding et prend une pause YouTube-esque.
Le Puy du Fou a de nouveau signé une exclusivité pour la saison avec Mélusine.
Une cyberattaque paralyse différents sites de production de la brasserie Duvel-Murgat.
Chaîne internet télévisuelle.
Récemment dévoilée sur The Beer Lantern, via une interview de l'ancien brasseur de chez Gallia, la chaîne YouTube Matchy a été dévoilée au programme du brassage de boissons fermentées assez large. On vous encourage à aller voir ce qui se rame, ça semble prometteur. Tu tires ou tu pointes?
Le concours du meilleur tireur de bière, a.k.a. le trophée au gré des bières, a départagé 22 candidats venus des quatre coins de l'Alsace. Après un premier écrémage par question théorique, 8 candidats se sont affrontés sur l'épreuve pratique. Et il paraît que l'année prochaine, le concours sera national. Oh, on a failli oublier, le meilleur tireur de bière s'appelle Benoît Windehoff et il officie au Petit Rouen à Saverne. L'école des fans.
Si vous êtes utilisateur de réseaux sociaux, vous n'avez certainement pas raté cette pluie de récompenses décernée par l'application de notation pas bien. La question reste la suivante, qui a profité de cette pluie de médailles? Est-ce que c'est les brasseries ou plutôt l'autre machin là? Bah nous on a bien un avis. Un message d'espoir.
C'est le printemps, ah nous les petites terrasses, les gros festoches, le brassage dans le jardin entrecoupé de barbecue avec les copains. Plus que jamais, buvez moins, buvez mieux et surtout buvez local. Et mettez de la petite crème sur le nez, il tape fort le père soleil.
Everybody say goodbye. God damn it, everybody say goodbye. Hands down, everybody say goodbye. God damn it, 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 everybody say goodbye.
Ça va?
Ça va et toi?
Ça va, ça va. Dis-moi, comment était ton mois?
J'ai passé un bon moment.
Ah, parfait. Et tu peux nous en dire plus ou c'est
oui,
secret?
Mais oui, mais bien sûr. Ah. Ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le faire un peu dans l'ordre chronologique, puisque ainsi sont mes notes,
ouais.
J'ai été au Delirium Café. Tu sais, le plus grand bar d'Europe ou même du monde.
Ouais, ça m'a fait fuir l'annonce, ouais. Et alors?
Bon, c'est pas aussi grand déjà. Ça doit être grand 5 mètres de plus que l'autre plus grand, à mon avis. Je ne me rends pas très bien compte. Mais déjà, voilà.
Est-ce que quelqu'un porterait plainte si vraiment c'était pas le plus grand du monde? C'est juste un effet d'annonce.
Peut-être un effet d'annonce. Oui, peut-être. Mais voilà. Sinon, après, niveau ambiance, ça se veut un peu néon, tu vois, un peu coloré. Avec beaucoup, beaucoup de becs, de bières relativement quelconques. Pas toutes.
D'accord.
J'ai l'impression qu'il y a un stand de tatou un peu sur la route des chiottes. Un peu bizarre, mais voilà. Okay, la dernière fois qu'on y est allé...
Barbie aussi,
était...
donc.
obligé.
Peut-être. Il y a une estrade à un moment donné, d'un côté, où justement il y a des gros néons et tout, là où j'ai fait la photo, que tu as vue. Et en regardant, il y a des gens qui vont et viennent, et il y avait un mec tout nu allongé sur quelque chose qui semble être une planche de tatou. Enfin,
t'es sûr que t'étais encore au bon endroit?
Je sais pas. D'accord, écoute, c'était bizarre. Ouais,
sinon, niveau bière, écoute, c'était des bières de chez Delirium.
Ah, d'accord. Hein,
voilà. Avec,
ah, il n'y a que des bières de chez Delirium?
Non, alors il y avait quelques bières de La Débauche.
C'est
et
ça?
Oui. Et il y avait eux. Bah, tu sais, bon, entre grosse industrie, on se répond. Et il y avait aussi, je sais plus, bref, j'ai pas trop retenu, en fait, ce qu'il y avait.
Il y a rien qui
t'a marqué.
Tout ce
que je peux dire, si, c'est que j'ai voulu prendre une saison, parce que je suis toujours sur le thème saison, à me faire un palais, etc., pour retravailler la mienne plus tard. D'ailleurs, j'ai toujours ma collection, que j'ai toujours pas goûté, donc je me lance un peu. Le beau temps arrive, on en discutera.
Ouais.
Et ils avaient une Dupont saison, tu sais, qui est citée dans le BJCP.
Oui.
Étalon. Et donc je l'ai goûté. Bah écoute, c'est un goût de saison, c'est pas mauvais.
D'accord.
Voilà. Et ce soir-là où j'y suis allé, il y avait une playlist particulièrement affreuse de musique française des années 90-2000, dont des détestables comme celle d'Axel Red que je n'aime pas du tout.
C'est toujours compliqué le choix des musiques.
Voilà.
Ouais, je comprends en tout cas. Ouais.
Voilà. Okay. Sinon, moi j'ai regoûté ma bière, ma saison, qui goûte de mieux en mieux avec le temps qui passe.
Ouais.
Voilà, t'en fais ce que tu veux. Et pour le pot de départ d'un collègue qui s'appelle Olivier, que je salue si jamais il écoute ce podcast, il m'avait commandé donc une bière et j'avais eu l'idée de faire une bière pas forte. Et je m'étais dit pourquoi pas faire une lager, une pils. Et je me suis lancé dans l'idée de faire une pils. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que c'était une mauvaise idée parce que normalement c'est quand même relativement long à faire, mais maintenant que j'étais lancé, c'est trop tard. J'en parlerai un peu plus longuement plus tard, mais il s'avère que c'était bon.
D'accord.
C'était pas fort, je l'ai calculé après, c'était pas fort, c'était en dessous des 3 degrés, je crois.
Ah ouais, cool.
Donc elle était vraiment légère, c'était cool. Elle avait un bon parfum de printemps, je trouve, un bon parfum de céréales et fleuries, ouais.
D'accord.
Un peu tout ça.
Ok.
Donc ouais, plutôt content de ne pas l'avoir raté. Mm. Et pareil, pour le coup, je me suis équipé des mini-fûts, là, de 5 et 10 litres. Et puis, évidemment, de quoi tirer. Donc, j'ai le petit plug pour mettre les cartouches de gaz de 16 grammes ou les cartouches de gaz de chez comment ça s'appelle?
Oui, le
SodaStream. Non, SodaStream.
Ah oui, SodaStream.
Parce que c'est adaptable aussi. Ah, oui, ou d'autres trucs, je ne sais plus trop quoi exactement. De chez Mangrove Jack, celui-là, je l'ai pris.
Allez, je savais qu'il fallait. Oui, je savais que ça traînait depuis tout à l'heure.
Je l'avais su. Il fallait qu'on le brûlait le bout de la langue.
Ouais. Et j'ai tu as redonné ton rig ou pas? Parce que.
J'aimerais bien quand
ils
même.
Ils peuvent, hein.
Bah, ils pourraient quand même.
Ah oh, ouais.
Et j'ai un tap aussi qui fuit un peu. Il faut bien le pousser au bout. Pas de chez Mangrove Jack pour le coup.
Ah voilà.
Voilà, peut-être. Peut-être
la contre.
Ah mon dieu. Non, celui-là,
j'ai beaucoup aimé. Ça, les influenceurs d'habitude, ils font pas. Ouais, c'est pas mal.
Je l'ai commandé chez Brûlant et c'est vrai que j'étais un peu déçu au départ. Je me sers pour tester avec de l'eau et je vois ça coule toujours. Je vais merde, alors calme-toi. Parce qu'évidemment, j'ai testé avant parce que sinon, j'étais comme un con. Ouais, regardez de la bière. Je n'arrive pas à tirer. Et ben, bref, bon, tu le pousses au bout, ça s'arrête. C'est juste que par rapport à mon Kegerator Mangrove Jacks, où j'ai des tapes que je peux pas régler, que je peux pas régler. Donc ça, c'est dommage parce qu'on voit bien que ma saison mousse trop et qu'il faudra peut-être la régler. Bon, bref. Bah, je suis là un peu déçu.
Et la carbonatation, ça allait?
Ouais, alors.
Ça a pas trop moussé? Bah, ou...
Alors, elle a moussé tout à la fin.
Ouais. Oui, ok, je crois que c'est normal. Hein.
Normal.
Ouais.
Et avant, non, très peu de mousse. Même en remuant un peu, très peu de mousse. Après.
La pression, ça allait ou...
La pression, ça allait, ouais. Après, pareil, hein, c'est réglable. Hein.
Oui.
Je mets une cartouche et je règle
Ok. Mais la carbonatation de la bière était bonne, quoi.
Elle était toute légère, étant donné que, pareil, en fait, c'est le soir qu'il y avait le pot de départ et c'est l'après-midi où j'ai enfuté, quoi.
Ah oui, d'accord. Et donc, t'as secoué comme un malade ou...
J'ai un peu secoué, ouais.
D'accord, ok.
Et bah, 3 degrés sur les doigts, ça fait froid quand même.
Oui, ouais.
Donc, j'ai secoué, j'ai fait ouh, oui, c'est froid. Oui, c'est froid. Et je l'ai refoutu dans le Kegerator le temps que ça regaze et que ça.
Mais surtout, je sais pas si tu te souviens quand j'avais parlé de carbonatation, tu sais, le CO2, quand il s'écoule, en fait, c'est extrêmement froid, ça te gèle.
Bah alors, en l'occurrence, là, je l'ai pas senti puisque c'était vraiment que le froid du keg et de la bière qui était froide, puisque de toute façon, elle sortait de mon premier fermenteur GF30. Parce que j'en ai deux maintenant.
Ouais.
Et oui, j'en ai deux. Oh, allez. Et
t'as pas dit la marque?
Grandfather.
Ah voilà.
Grandfather.
Ouais, je me disais ça, j'ai cru que c'était un Mangrove Jack, c'est pour ça.
Non, c'est Grandfather. Okay, mais okay. C'est des cousins.
Ouais, je sais.
C'est la même famille.
C'est la même.
Exactement.
Même famille de business.
La même famille de gros business, parce que ça a l'air d'être un truc énorme au-dessus, bon, peu importe. Mm. Et pareil, comme j'avais oublié de réparer mon double tap, je t'avais dit, j'ai été obligé d'acheter également un kit de tirage sous pression.
Ouais.
De chez Grandfather également. qui marche plutôt bien, mais bon, c'était un investissement que je voulais pas faire à ce moment-là, mais bon, voilà, c'est fait. Et donc, elle est sortie à 3 degrés parce que j'avais fait un cold crash très très long. J'avais suivi les recommandations de chez Grandfather.
3 degrés, c'est la température. Hein.
3 de... Ouais.
Mais c'est pas alors, des degrés
non,
plateau,
en
quoi.
Fait, non, 3 degrés température, 3 degrés Celsius.
Ouais, ok.
Qu'elle n'a jamais atteinte, apparemment. Je crois qu'il y a des problèmes avec ce. Bon, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard.
Ouais.
Mais j'arrive pas à atteindre ces 3 degrés, ni au niveau de la ceinture, puisqu'il y avait le pils que tu m'as offert, qui mesure la température, et qui me disait non, il n'y a pas 3 degrés. Et la sonde en fond de cuve qui me disait bah non, il n'y a pas 3 degrés. Mais ça, on l'avait vu, c'était normal, puisque à cause de l'inversion ou je ne sais pas quoi, là, ça. Bon,
j'ai eu du mal à comprendre, mais oui.
Quand c'est trop froid, ça ne descend plus.
Ouais.
Grosso modo. Donc, non, c'était ça vraiment qui était froid. Par contre, ce que tu disais avec le CO2 qui était froid, je l'ai pu l'observer quand j'ai tiré, c'est-à-dire que la cartouche de CO2 était toute condensée, quoi.
Ouais.
Toute pleine de condensation. Voilà, ça, c'était mon mois.
Nac.
Et toi, t'as passé un bon mois ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Alors moi, il n'a pas été pareil mon mois. étrangement, faut savoir que moi, je suis toujours dans les travaux, tu vois. J'ai toujours, je crois, que c'est une dominante depuis 2 ans à peu près.
Mais après, est-ce que tu peux rappeler ta deuxième nationalité, s'il te plaît ?
C'est obligé.
Je voudrais pas passer sur le racisme.
Elle est un peu ibérique.
C'est
un peu ibérique et c'est pas vraiment l'Espagne. Bon, bah voilà.
Voilà, ok.
Bon,
on sait pas là.
Bah oui, non, voilà. Donc, forcément, le bâtiment. Voilà.
C'est quelque chose.
On est né dedans, quoi. donc, ouais, toujours les travaux. Là, on est côté jardin pour le moment.
Mais c'est bien.
Ouais, non, il a pas fait beau du tout. C'était un calvaire.
Ah merde.
Surtout que j'avais à peu près 350 mètres de grillage linéaire à poser.
Et pourquoi faire donc ?
Sans tracteur pour accueillir début juillet. Oui. Tu vois bien, des petits moutons d'ouessant.
Oh là là.
Enfin, ça va être formidable, j'ai tellement hâte.
Et tu vas en faire quoi ?
Je vais en faire des tondeuses à gazon et des papouilles.
Oh, des papouilles, essentiellement. Des petits moutons.
Voilà, donc ils auront des prénoms, donc ils seront évidemment pas destinés à rejoindre une table quelconque.
Alors qu'on n'enregistre à Pâques.
Alors qu'on n'enregistre à Pâques et que l'agneau de Pâques...
Le gigot de moutons d'ouessant, à mon avis, ça se fait.
Ça doit se... C'est tout petit quand même, hein. Il n'y a rien à bouffer dessus, hein.
Le gigot,
c'est tout petit.
Okay.
Le gigot de mouton d'ouessant, ça doit se faire.
Le petit mouton.
Ouais, le petit mouton. Bref, donc ça, c'était pour les travaux. Côté travaux aussi, parce que mine de rien, voilà, j'approche doucement du chai.
Ah.
On s'en rapproche, donc on a déjà séparé les
sujets qui m'intéressent.
Wallet du chai. Chose qui n'était pas évidente jusque-là. Bon, j'ai quand même pas trop rentré dans les détails de ces travaux-là, puisque de toute façon, on a un épisode bonus qui
en parle
a commencé à en parler. D'ailleurs, je sais pas si les gens ont écouté le bonus, mais
j'espère bien.
Au cas où, il y a un épisode bonus.
D'autant plus qu'il est gratuit.
Il est gratuit. Il est gratuit. ensuite, quoi d'autre en termes de bière, proprement parlé.
Oui.
Je fais une petite visite à l'effet papillon. Où je me suis rendu compte de la marche astronomique qu'ils ont franchie sur les fermentations basses.
Ouais.
Donc tout ce qui est pils, tout ce qui est. Je me souviens d'il y a quelques temps où j'avais goûté une pils chez eux.
Ouais, je crois que tu m'avais dit que tu avais été un peu déçu. Ouais.
Vraiment déçu.
Ouais,
mais je pense que j'étais en fond de fût et c'était trouble. Et tu vois, il faut que ce soit vraiment très clair. Donc je pense qu'ils ont vraiment fait un énorme pas en avant. Et puis j'ai goûté chez eux une nitro stout aussi, des trucs que j'aime bien, tu vois, c'est des stouts un peu sèches avec du nitro dedans. C'est assez sec
et donc une belle mousse,
une jolie mousse et c'était vraiment impeccable. Rien à dire.
Une jolie mousse parce qu'il y a Alice de chez Mottler Hops qui a fait un clone de Guinness pour justement la Saint-Patrick et qui l'a fait au nitro et elle a réussi à avoir toute la cascade.
Inversé
la Guinness exactement avec une belle mousse qui est due à la nitro justement qui provoque d'après ce qu'elle m'a dit enfin pas moi personnellement mais d'après ce qu'elle a dit des bulles vachement plus fines que ce que fait le CO2. Petite pub pour Alice.
C'était ça.
Voilà.
Enfin, je t'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure.
Oui.
Mais j'avais envie de passer un coup de gueule.
Ah là là.
J'en ai ras le bol de ces brasseries qui réussissent absolument tout. C'est une catastrophe.
Ça m'énerve également.
Tout à l'heure, j'ai cité Popin.
Oui.
En off.
Insupportable, ces gens-là.
Qu'est-ce que. Oui, maintenant, ils font
de
du
la
vin.
Bonne bière, on fait du bon vin. Alors bon, c'est, on n'a pas encore goûté.
Ils n'ont pas de limite.
Si ça se trouve, le vin est mauvais.
Ouais, mais jusque-là, en termes de IPA, bon ben. Oui. Popin. Voilà, je pense que. En termes de barrel age sur les Imperial Stouts,
oui.
On bat Popin.
Oui.
En termes de barriquet, on bat Popin.
Oui. Et en voilà. Plus, ce que tu me disais, c'est que ils font tout eux-mêmes.
Ils font tout eux-mêmes.
Et c'est insupportable.
Peut-être pas tout, mais non, enfin, si, tout, à la base, tout. C'est une ferme.
C'est eux qui ont fabriqué les briques, je suis sûr.
Ils font des céréales. Là, maintenant, quand ils refermentent avec leurs bouteilles de barrel age, ils refermentent avec du miel du domaine. Enfin, ça suffit
c'est
maintenant.
Insupportable.
On s'arrête où? Est-ce qu'ils vont souffler leur propre bouteille?
Demain, ils te vendent du cidre, de l'hydromel.
Exactement.
C'est insupportable. Taisez-vous.
Ils vont tout faire. Et à la base, moi, j'avais pensé à la brasserie Jukebox aussi.
Oui.
Il y en a marre. Ils réussissent tout.
C'est insupportable.
Alors, la dernière fois, j'ai goûté une Imperial Stout chez eux. Enfin, une Russian Imperial Stout. Mm-hmm. C'est pas certain, qui était un mélange de différentes barriques, rhum, cognac, des choses comme ça.
Ouh.
Bon, c'était extrêmement bon. Mmh. Pour le fun, il y avait le brasseur, j'ai critiqué, j'ai dit qu'il n'y avait pas assez de sucre. Mmh. Enfin, c'était quand même vachement réussi.
Oui, bah oui.
C'est pénible. C'est et là, ce qu'on va goûter aujourd'hui, c'est encore un autre style que des IPA classiques, et c'est encore réussi. Mmh. C'est pénible.
En plus d'être sympathique, ils sont chiants d'être très bons.
Voilà, donc il y en a marre.
Voilà.
Et ben globalement, c'était mon coup de gueule du moment.
Je rejoins ton coup de gueule.
Voilà, exactement.
Wesh alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'on déguste pas une jukebox? Pourquoi donc?
Mais non, je sais pas, il y a une surprise. Ouais, on m'avait pas dit, moi.
Une micro-surprise. Et ouais,
on m'a dit, prends des bières, j'ai rien à boire, qu'est-ce qu'on va faire?
Mais oui.
On va boire de l'eau.
Qu'est-ce qu'on attend? Et finalement, non, je voulais quand même te faire dégoûter ma Pilsich.
La Pilsich.
La Pilsich. Qui donc a le même problème que. Mais donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De surpression, je pense, parce qu'elle mousse énormément, comme ma saison.
Ouais.
Alors que quand je l'ai sorti à 1 PSI, ou non, à moins de 10, pareil, avec mon. Mais peut-être parce que je l'ai trop secoué aussi, j'en sais rien. Parce que j'ai un peu plus travaillé pour faire en sorte qu'il y ait plus de bulles, même si j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus. Mmh. Je m'en rends pas compte. Pour l'instant, j'ai pas goûté.
Oh, ça sent vachement les céréales. Désolé, je te coupe, mais
c'est
ça
pas grave. C'est un dialogue. Donc elle a beaucoup moussé et quand je l'ai sortie sur le mini-fût avec le petit kit, elle moussait pas du tout comme je t'ai dit, sauf à la fin où j'ai eu la mousse quoi, normal. Elle était vraiment même en teb et sans le verre etc. En faisant les ascenseurs, j'avais pas de mousse, ou très 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 peu.
D'accord.
Et là, effectivement, on a une grosse moussasse.
Mmh. Avec, la moussitasse, même,
donc, pour le coup, elle est trouble.
Ouais. Hein, ah bah là, vu qu'elle a, en fait, on a une verre qui était aux trois quarts mousse,
ouais.
Forcément, c'est trouble. C'est pas...
Alors que lorsque je l'ai sortie du mini keg, alors elle était un peu trouble aussi, parce que bon, je l'ai trimballée en vélo.
Ouais,
même si elle a pu patienter 2-3 heures au frigo, ça n'a pas suffi.
C'est pas suffisant.
Non,
clairement.
Donc
pas.
Était un peu trouble. Et puis pareil en petite quantité, je sais pas si ça arrive. Hein, bref.
Mm.
Mais elle était plus claire quand même.
D'accord.
Et voilà. Il y avait des fines bulles sur celle que j'avais dans le mini keg.
D'accord.
Que j'arrive pas à retrouver là, mais peut-être parce que pareil c'est trop trouble, je m'en bats compte. Parce que donc la différence, c'est que le mini keg, je l'ai remué un peu, mais celui-là, je l'ai remué beaucoup plus et il est resté plus longtemps à une pression plus forte.
Ouais. Il y a quand même des toutes petites bulles, hein, je crois.
Je me rends pas compte.
Il sort, mais après, il y a quand même une belle. Tu vois, là, il y a quand même une belle mousse qui reste. Tu vois, là, il y a une espèce de mousse persistante, là.
Ouais, une île, ouais.
Elle est quand même assez jolie. Au-delà du.
Ouais, c'est vrai.
Bon, elle est un peu trouble, ça, c'est dommage, mais.
Oui, non, oui, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'au niveau de la troublitude,
ouais.
J'ai mis.
De l'Irish Moss.
Non.
Un truc pareil mais qui s'appelle pas pareil.
Du chitosan. Rappelle-toi
ah
le
shit. Bah oui, c'est pareil. Ouais.
Que la première fois j'avais mis parce que j'avais mal compris une recette qu'il y avait dans les livres de Yega, j'ai oublié son nom de famille, celle qui travaille sur Card Brewery, je sais plus l'anglaise là, qui a fait un bouquin sur les wild beers.
Ah oui, voilà. J'ai pas le nom mais oui je vois.
Yega
Lelo.
Yeah. Wow.
Ouais, pardon. Okay.
Mon Dieu. Pardon, Yega, si tu les écoutes. Elle parlait justement d'Irish Moss ou de quelque chose de similaire dans la recette, sauf que la recette, je trouve qu'elle n'était pas assez claire, étant donné que je ne savais pas quand la rajouter. Mais non, en fait, ça se rajoute pendant la fermentation. Après, un moment de la fermentation, ouais.
C'est sûr.
Et c'est écrit derrière le sachet en plus, donc j'aurais pu lire.
Ah oui,
c'est écrit 24 heures avant la mise en bouteille. Et donc, grosso modo,
c'est déjà
stérile. Fait... Ouais, ouais.
Bon, je veux dire, t'as cas, pas moi, le stérilisé genre... dans l'eau ou quoi?
Non. Ah bah non.
C'est non, comme le houblon, quoi. C'est pas.
En fait, grosso modo, ce que tu vas mettre, c'est un liquide qui normalement n'altère pas le goût et il va juste prendre. L'intérêt de ce truc-là, c'est. Après, c'est chimique, hein. Ça attire les molécules et ça coule. Point.
Ok.
C'est tout. Et c'est juste qu'il y en a fait à partir d'animaux morts et d'autres à partir de champignons.
Oui, ça je me souviens, ça on
voilà.
En a déjà parlé.
Exactement.
Et donc, ça, c'est les champignons.
Moi, c'est les fungus, ouais.
Ok. On peut goûter ou.
Vas-y, vas-y, vas-y.
Depuis tout à l'heure, je sens.
Vas-y,
là.
vas-y.
Je sens quand même vachement les céréales. Ça, en ce sens-là, je trouve que c'est réussi.
Ouais, ok.
Et ça sent pas du tout le sucre, donc ça, c'est bien.
Ouais, j'aime pas
enfin,
trop.
En tout cas, voilà. C'est...
Et pourtant, pareil, ouais, je te laisse goûter. Mais j'ai pas pu avoir une longue fermentation.
Wow, y a ce goût de céréales hyper fort, trop fort. Je pense, ouais, c'est ça, ça manque de. Wow, les céréales, ils sont.
Ah ouais, elles goûtent un poil différent de ce que j'ai goûté
ah, c'est les Weetabix, hein.
sur le 5 litres. C'est marrant, ouais. Tiens.
Mais je pense que là, en fait, ce qui manque, c'est l'étape lagering que t'as pas faite, justement, ouais. Pour estomper un peu cet effet-là. Ouais. Et je sais pas si tu vois une lager, en fait, ça doit avoir ce goût-là, mais c'est estompé, tu vois.
Oui, oui.
Alors que là, il est...
Oui, il est plus fort.
Je crois que t'abordes le terme dans ton sujet.
Oui.
J'imagine que tu vas l'aborder.
Ah, le mec, il spoil.
Là, je l'ai pas. Non, mais là, je l'ai pas, le terme. J'en sais rien.
Ah.
Il y a un terme pour ça.
Peut-être.
Une substance qui est dedans et qui est censée disparaître au lagering. Mais, enfin.
Non.
Tout ça pour dire, je.
C'est pas soufré.
Non, c'est pas ça, mais il y a quand même, ce goût-là, il est censé partir au lagering.
Ah, peut-être.
Et je pense que ta base est bonne. Ta base est bonne, sans compter que normalement t'as fait ça avec une ale lager, donc je suis assez surpris du goût.
Tu spoil tout.
Du résultat, c'est vrai?
Mais oui.
Ok, on recommence alors.
Mais non, c'est trop tard.
Mais non, mais.
C'est insupportable.
Mais non.
J'ai hâte de te parler. Moi.
Mais je croyais que tu l'avais dit déjà.
Non, j'ai jamais dit.
Ah merde.
J'en parle pendant mon sujet.
Ok.
Mais je te déteste.
Ah là 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 là.
Mais oui.
Bon, j'ai tout niqué. tout ça pour dire, elle est bonne et je pense qu'il manque juste de la fermentation.
Oui, je suis d'accord.
Le lagering, quoi.
Et là où je suis un peu surpris. Peut-être même un peu déçu, c'est que je t'avais parlé d'un côté floral qu'on ressentait beaucoup plus dans la 5 litres que là.
Là, parce que là, c'est les céréales.
On les céréales.
Ouais,
ouais. Alors que là-bas, le saz que j'ai mis dedans, donc le houblon saz, on le ressentait un peu, ce côté floral que tu peux avoir.
Ok.
Et ça se rapprochait plus d'une pils que je goûte habituellement que là où là, effectivement, t'as un bol de céréales. Alors moi, ça me plaît, honnêtement. Ce côté très céréalier, ça me sature pas trop. Toi, peut-être. Moi, je trouve ça sympa.
Ouais, enfin, c'est juste que si je compare à. à une pils que j'ai en tête, tu vois,
Oui, oui, c'est sûr.
Là, c'est un bol de céréales, quoi.
Ouais, mais
littéralement.
Moi,
c'est pas ça, très sucré.
C'est ça que j'aime, en fait. C'est ce côté vraiment très. C'est quelque chose que je goûte beaucoup.
Je serais curieux de la regoûter dans un mois.
Ouais, ok.
Tu vois, une fois qu'elle est bien reposée, éventuellement qu'elle perd un peu en trouble. En plus, du coup, on va gagner en tranchant sur les goûts. Potentiellement qu'elle gagne un peu en carbonatation, parce que là, effectivement, elle est encore un peu plate.
Bah, oui, c'est vrai que là, elle est complètement plate.
Un peu.
Ah bon, tu trouves ? Moi, je la trouve complètement plate. Ouais. Plus plate que que j'ai goûté encore dans le 5 litres.
Ok.
Donc, c'est encore une fois surprenant. Okay. Parce que je l'ai laissé à carbonater plus longtemps, je l'ai remué.
Ouais.
Et je l'ai pas remué hier ni avant-hier, donc pour être sûr que ça décompte. Oui, oui, oui. Écoute, je ne sais pas. Il reste encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai l'impression.
En tout cas, la base, pour moi, me semble parfaite.
Il n'y a pas de faux goût.
Félicitations.
C'est plutôt cool. Je suis content, ouais. Voilà. Donc, on termine ça et puis on va pouvoir passer sur la dégustation.
Ouais. Eh oui.
Eh oui. Bon, on va vraiment parler de dégustation cette fois-ci. Après ce premier. Cette première surprise, d'une certaine façon. Faisons amélioratif un petit peu.
Ouais, ouais, ouais. Hein.
Tu nous as rapporté quoi, Marco ?
Ouais, vu que la thématique, c'était...
cet épisode... Je vais changer le titre de l'épisode.
Ah, d'accord.
Alors, puisqu'on est sur cette thématique que je vais nommer juste après, le titre de mon épisode, que vous avez donc... Enfin, que vous n'aurez pas, du coup, ça devait être « Insérer un jeu de mots avec lager ». Parce que le sujet, ça va être les lagers. Mais comme Marco n'arrête pas de spoiler depuis le début,
c'est vrai.
Va être l'épisode du spoil. C'est le nouveau titre.
En fait, il ne faut pas que je relise le sujet avant. C'est
non,
ça,
bah non, mais ça, le problème.
C'est
une catastrophe, c'est que...
Bon. Je manque de subtilité.
Mais vas-y, on travaillera là-dessus sur les prochains, prochains épisodes.
Ok.
Alors, comme le sujet, c'est le spoil.
Ouais, le spoil. J'ai ramené une cold IPA. Mm-hmm. Donc, j'ai goûté hier soir.
Oui.
Et vraiment, j'ai galéré. Tu vois, là-bas, je voulais un type spécifique de bière. Je ne trouvais pas, puisque personne n'en fait. En tout cas, là où j'ai été la chercher.
Oui.
Et puis donc j'ai pris des trucs allemands qui sont bon somme toute assez réussis, tu vois, ça reste un peu industriel mais c'est quand même bien réussi. Et puis je vais au bar et je vois cette canette là, pas cette canette, enfin ce même bière là,
oui,
ce même nom à la tireuse dans le bar. Donc évidemment je prends un demi, un 33 puisque ils font pas de demi.
Ah bon ?
Et je goûte, ouais, je sais, c'est une catastrophe. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce style est également maîtrisé par cette foutue brasserie.
Oh,
on a la continuité de ma colère. Donc on est chez Jukebox.
Voilà.
Et ils nous ont fait une cold IPA.
Une nouvelle cold IPA.
Ils en avaient déjà fait une en collab avec l'Effet Pape.
L'Effet Pape, et qu'on avait goûté sur ce même podcast.
Et je croyais que c'était celle-là. Je me suis dit non, ils font pas de fermentation basse. Jukebox. Et ben maintenant ils en font apparemment.
Ah les bâtards.
Ah là là, je suis deg.
C'est même pas écrit que c'est de la fermentation basse.
Deg.
C'est un peu dommage. Mais non mais alors, plus que ça.
Je suppose que c'est de la fermentation basse.
Ah, il suppose.
Je suppose parce qu'en fait, une cold IPA c'est quoi ? Bah, c'est une bière qui est à la base une fermentation basse avec du houblon qui rappelle un peu les West Coast IPA, tu vois. Normalement, on est là-dessus.
Mais si ça se trouve,
ouais.
On va pas spoiler un peu plus, mais si ça se trouve, c'est un peu comme moi.
Ah, tu veux dire... Ah là là...
Wait and see.
Au vu du résultat que tu as réussi à obtenir, je dirais pas que c'est impossible.
On peut se poser la question. En tout cas, effectivement, niveau transparence, bien plus que la mienne, indubitablement.
On est sur du verre d'eau tellement la transparence, elle est... Non, elle est... La couleur est magnifique, est magnifique.
Toi, tu t'es versé une jaune. Bien plus jolie mousse.
Ouais.
Que je ne me suis versé.
Une jolie mousse. Il n'y a pas trop de bulles qui remontent, mais on sent quand même qu'il y a du...
Ouais, en fait, quand j'ai versé, moi, j'ai vu les bulles qui ont remonté, qui se sont arrêtées au niveau du collier de mousse, et ils se sont arrêtées. Donc, c'est vraiment au niveau du versement que j'ai eu de la mousse, moi.
Et à l'odeur, ça sent très, très bon.
Ça sent le houblon, hein.
Parce
qu'on est quand même sur de l'IPA.
Je ne sais pas si hier, j'en ai pas plus dans le verre et la tireuse. Bon, ça, c'est toujours le débat. Tireuse, canette, bouteille.
Enfin, c'est toujours un peu différent, bon. Donc, on est sur la Lordi, puisqu'on n'a pas donné son nom, Cold IPA de chez Jukebox, avec une étiquette qui doit être quelque chose qui me rappelle un endroit connu, une piscine avec des arches et une verrière dans laquelle il y a des flammes en rose. Et l'endroit me me donne des impressions déjà vues par rapport à des monuments qu'il peut y avoir à Paris ou des piscines.
Ah oui, le
ça,
palais.
Je sais plus trop, mais.
Le Grand Palais.
Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, Oh Lordy Lord, No Trouble avec cette cold IPA. C'est ce qui est écrit derrière. On a du maïs en plus de tous les ingrédients de base qu'on peut avoir habituellement.
Ouais, ça c'est la spécificité des cold IPA.
Ok.
On va retrouver du maïs. Du maïs ou autre chose d'ailleurs, je sais plus quoi dedans, mais en général je crois que c'est du maïs dans les cold IPA.
Ok. Eh bien écoute, et on a du Nelson Sauvin Mosaïque.
D'accord.
Nelson Sauvin, c'est mon nom doublant.
Pour ça que oui. Oui, comme
Nelson Mandela.
Non, Sauvin, Sauvignon.
Voilà. William Sauvin.
Et du mosaïque. J'avais même pas vu qu'il y avait du mosaïque, étrangement. C'est peut-être pour ça que
évidemment,
ça me parlait.
Évidemment, t'aimes bien, quoi.
Ouais.
Voilà, alors, voilà. On va goûter quand même. T'as goûté, toi, déjà, j'ai
non,
vu.
Non, j'ai pas goûté. Moi, goûté. Alors là, ça m'étonnerait.
Ben, je te laisse en parler, puisque tu goûtes.
Non, mais je l'ai déjà goûté.
Mais oui, hier, c'est bon.
Longuement. Non, pas très longuement. Mais. ouais, c'est très cool. Tu vas voir, c'est ça. Comme d'habitude chez Jukebox, c'est peintable, c'est riche en goût, et c'est pas, on n'est pas au Upburn, tu vois, on est vraiment, c'est pile la bonne dose pour, c'est hyper aromatique et peintable, tu vois. C'est,
exactement, exactement. Et tu n'es pas sans savoir, mon cher Marco, puisque je le dis assez régulièrement sur ce podcast,
ouais.
Que les IPA, moi, je sature un peu, puisque on n'avait que de ça tout le temps. Et là, effectivement, on a. J'ai pas l'impression de goûter une IPA que je goûte habituellement.
Ouais.
On a un côté houblonné,
ouais.
Certes.
Oui, bah oui.
Mais il y a un autre truc sur le bout de la langue que je sais pas définir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire avec toutes les informations que je viens de te donner. Wow, là.
Un autre truc sur la langue.
Un truc.
Un cheveu ou
Alors, non, c'est pas un cheveu.
Ah, c'est pas un cheveu. Non, je sais pas. En fait, je pense que ça bénéficie surtout de la légèreté de. Et tu vois, du côté céréalier.
Ouais, c'est le côté céréal, je pense, qui me.
De la lager, de la pils, quoi. Parce que là, c'est presque. Enfin, c'est une pils qu'il y a derrière avec du houblon.
Ok.
Donc, je pense qu'on est pile à cet équilibre-là. Et comme c'est.
Ah, c'est dommage, t'as failli faire un super jeu de mots, mais bref.
C'est pils.
On est pils à ce niveau-là.
On est
pils
à ce niveau-là. Mais
c'est trop tard. Enfin,
ouais, ouais, non, okay. Bon, j'ai foiré. Je suis deg. et ouais, du coup, comme c'est hyper équilibré, et ben, je suis au regret de te dire que ça marche hyper bien.
Ça marche hyper bien. C'est très, très, très bien.
D'où ma colère en partie, quoi. Je pense que c'est ça qui a déclenché ma colère au final.
Je pense qu'on devrait aller faire un sitting chez eux en buvant leur bière et en disant on n'est pas content.
Ouais.
Ça se tente ?
Ouais.
On fait ça.
Ouais. Là, je réfléchis.
Ouais, c'est un bon
sitting. Que j'ai prévu les 15 prochains jours. Ouais, c'est bon.
C'est bien.
Bon. Ouais,
c'est ça. Bon matin à vous qui vous réveillez et bienvenue sur Télématos. C'est l'heure de la revue Nouveauté du Brassin Malin, la revue qui vous veut du bien.
Les houblons français débarquent chez Rolling Beers pour retrouver du Barbe Rouge, du Mistral, de l'Elixir, du Stristespalt et du Triskel. Et enfin, du Aramis. De 5,30€ à 5,90€ les 100 grammes, il ravira les papilles des plus fins gourmets.
Oh mon Dieu, nous n'étions pas retournés sur le shop de Grandfather, mais il semble qu'il est réouvert pour l'Europe, le bandeau ayant enfin disparu. À vous les kits de transfert pression, les bouilloires de 30 litres, les fourquets en inox et autres grosses machines chères, mais qualitatives.
Chez Mottler Ops, une fois n'est pas coutume, vous trouverez des levures en pré-vente. Dernière nouveauté, la WLP 4651 Von Degenberg F Blend de chez White Labs. Une levure liquide qui rend hommage à l'histoire de la bière de blé allemande et donne son nom à une figure célèbre qui avait été autorisée à outrepasser les normes et traditions brassicoles allemandes strictes à l'époque, à retrouver au prix extraordinaire de 16,20€.
Et pour nos amis bordelais, vous pourrez bientôt retrouver directement chez vous les délicieuses bières de l'effet papillon. Les livraisons auront lieu chaque premier mercredi du mois pour un achat minimum de 12 bouteilles. Et pour 150€ d'achat, la livraison est offerte.
Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. Dreams hang in the air. holes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there all my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful.
Pour commencer ce sujet, mon cher Marco, j'ai voulu trouver un titre. Alors, on l'a déjà un peu spoilé. Enfin, on tue.
Moi ?
Oui, bon, un petit peu avant, mais j'ai voulu trouver un titre. À la guerre comme à la guerre. Mais c'était déjà pris par une brasserie. Alors je me suis dit, faites l'amour, pas la guerre. Déjà pris aussi. La guerre des mondes, encore pris.
Ah ouais.
À ce niveau de l'histoire, tu as déjà dû te faire une idée de ce qui allait être le sujet du jour.
Ouais, il y avait aussi la brasserie Musa avec Mick Lager. Bon bref, je dirais la lager.
Et non perdu. Je vais parler des lagers. Ne sois pas déçu, tu gagneras la prochaine fois. Alors les lagers, je t'avais dit que je t'en ferai un sujet une fois que j'en aurai fait une.
Et il en fit une.
Et il se trouve que j'en ai fait une, effectivement. Enfin, presque. J'ai fait une pils pour le pot de départ d'un collègue, dont j'en ai un peu parlé avant.
On l'a même goûté.
Exactement. Alors, une pils, non, je ne voudrais pas prétendre que j'ai fait ça. J'ai en tout cas voulu faire quelque chose qui s'en rapprochait. Parce que tu te souviens, on a dit pils quand même, grosse histoire... grosse technique, je me suis pas dit que j'allais me faire une pils avec mon super matos Grandfather. Bien qu'il soit très bien, je pense pas que ce soit le matos le plus adapté du monde pour faire une pils.
Ah, c'est pas.
Hey, donc dans mon matériel Grandfather, je viens de le nommer, et c'est une marque pour laquelle on ne touche rien. J'aime bien mettre des ingrédients de chez Mangrove Jacks, même réflexion que sur la première marque du même groupe. Sauf que le levurier Mangrove Jacks, qui fait aussi des kits que je recommanderais pas au demeurant, celui qui est avec du, je sais pas, bref,
avec du jus de quelque chose.
Du jus de quelque chose. Il fait pas de levure de lager. Enfin si, mais non. Ils ont au catalogue deux levures pour faire des lagers. Les M84 Bohemian Lager, oui, pas Bohemian Rhapsody, et la M54 Californian Lager et pas California Dreams ou Californication. Et ce sont des levures Saccharomyces cerevisiae. Et une lager, on en a déjà parlé dans des précédents épisodes, et si vous ne le savez pas, eh ben écoutez les précédents épisodes, c'est une fermentation basse, ce sont donc des Saccharomyces pastorianus. Un peu d'histoire pour commencer, les Saccharomyces pastorianus ont été découvertes par Louis Pasteur, donc, et nommées d'après lui par l'allemand Max Reis en... Je suis pas sûr que ce soit ça, mais j'étais pas sûr de l'accent. En 1870,
Le terme lager, quant à lui, vient de l'allemand lagern, ou je ne sais pas le prononcer non plus, qui signifie stocker. Et c'est fait dans un lager qui signifie entrepôt. Lager, entrepôt.
D'accord.
Entreposé, voilà, ça vient de là le nom.
D'accord.
Les lagers étaient stockés donc dans un entrepôt à des températures proches de zéro afin de conserver la bière, ce qui améliorait également ses arômes. Le stockage s'appelle maintenant le lagering. Donc c'est pas allemand, hein, ça c'est plus American.
Ça a été américanisé, quoi.
Ou anglicisé, parce que c'est peut-être les Anglais qui ont fait ça en premier. Bon, peu importe. Pour rappel aussi, pour ceux qui nous suivent, ou ajout d'informations pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous par ailleurs.
Bienvenue.
On parle de lager et de Saccharomyces pasteurianus en tant que fermentation basse à cause de la température de fermentation, entre 10 et 13 degrés, d'après How to Brew de John J. Palmer. Tu remarques pas l'accent.
Oui, oui. Je remarque surtout que tu cites la source parce que tu as peur de te faire bâcher.
Bof.
Non, oui, d'accord.
Et c'est aussi à cause du fait que l'activité de fermentation de lager se déroulerait au fond de cuve. Alors, tu as entendu le... Ah non, je l'ai pas écrit comme ça, mais c'est pas grave. Historiquement cru, en tout cas. Non, j'allais dire, t'as entendu le déroulerait. Je l'avais pas écrit comme ça. Bon, historiquement cru, en tout cas, car il s'avère que ce n'est pas totalement vrai. J'épilogue pas trop là-dessus.
Ouais.
Apparemment, c'est au fond, mais peut-être pas tout le temps.
D'accord.
Voilà, apparemment, c'est fallacieux.
Sauf des fois, donc.
Tout le temps, sauf des fois.
Ok.
Bon, restons donc sur la température, et ça ne s'avéra pas être la définition la plus définitive non plus, et je vais t'en parler maintenant. En effet, la levure de Mangrove Jack que j'ai choisie, la M84 Bohemian Lager, qui est une cervicière, fermente entre 10 et 15 degrés. Donc, fermentation basse également. Alors, c'est une lager, c'est pas une lager. Et j'ai tranché donc et j'ai décidé que ce serait une lagerish. Tu sais, le « ish », c'est ce que les Anglais mettent derrière les mots pour dire « presque ». C'est presque une lager.
Ouais, sinon, tu aurais pu appeler ça une « ale lager » aussi.
On aurait pu appeler ça une « ale lager
». Pourquoi pas.
Une « lager »,« lail », bref.
Ouais, ouais.
Pour retourner sur le sujet lager, tu me pardonneras ma digression, il faut revenir sur les Saccharomyces pasteurianus. Qu'est-ce qui les différencie des cerviciers? La température de fermentation, j'en ai parlé dans ma digression, la fermentation qui se fait au fond de cuve, même si ce n'est pas totalement vrai, j'en ai parlé aussi. C'est tout? Eh bien non. Il reste la consommation du sucre. Les pasteurianus, ça ne te dérange pas si je les appelle par leur prénom?
Moi, non, ça va, je devrais vivre avec ça, je pense.
Merci. Alors, les pasteurianus, donc, consomment un sucre appelé le mellibiose. Et là, tu dois te dire, top, de quoi faire encore plus baisser ma densité. Malheureusement pas, il n'y a pas...
Quoi ? C'est le haussement d'épaule, ça m'a fait rire. Voilà. T'as l'air dégoûté, quoi.
Et oui, non, c'est dommage. Ouais. Et non, tu me fais rire. Tu es un coquin. Le mellibiose, il n'y en a pas dans le mou.
Hein,
c'est purement théorique. Alors, t'oublies. Il n'y a pas de différence, alors, tu dois te dire. Eh bien, si, parce que le pasteurianus, il consomme aussi mieux que le cerviciae.
D'accord.
Le trisaccharide maltotriose. Et là, mon gars, il y en a dans le mou. Et donc, on gagne un ou deux points d'atténuation.
D'accord, d'où le moins de sucrosité en bouche. Quoi.
Et ouais.
Ok.
Et peut-être, alors là je digresse encore un peu, on a vu sur peut-être les saisons par exemple, que ça consomme aussi pas mal de sucre et peut-être plus que d'autres, peut-être que c'est des levures ale qui consomment aussi un peu plus ce type de sucre. Il faudrait creuser un peu là-dessus. Oui, tu avais parlé de ça aussi.
On en a parlé.
Et ces sucres, Marco, pour stopper cette digression, ils sont consommés pendant la fermentation dans un fermenteur GF30.
Faut que tu leur files ton rib. Hein. Vraiment, ça ne peut plus durer... J'ai les oreilles qui saignent, moi.
Ouais, je suis désolé. Et t'as vu, j'avais une parenthèse avec des points de suspension pour pas te spoiler. Ou deux, d'ailleurs.
Ah, hein, oui,
c'est
oui,
ça.
C'était pour pas spoiler.
Bien sûr, parce que je sais que tu me lis. Ouais. Et qui dit température basse dit levure un peu endormie. Alors, c'est pas un terme officiel, mais oui, la fermentation de lager prend un peu plus de temps. Il y a le temps que les levures mangent le sucre et il y a le temps du lagering, qui est toujours un... peu de mélange de sucre, mais c'est surtout de l'affinage, on peut appeler ça, comme un bon fromage. Ou comme un bon vin. Pardon l'accent, c'était naze.
Too much, mais bon, c'est pas grave.
On est sur une mise en fermenteur entre 1 et 2 mois, donc c'est vachement plus long que que le petit mois qu'on peut avoir sur une ale.
Ouais.
Hein, parce qu'une ale, 3 semaines, 1 mois, je pense que c'est pas mal.
Ouais, pour une saison, 1 mois, c'est cool. Ouais,
ouais. Et sauf la... Waouh.
La...
Là. Non.
D'accord, j'avais pas vu.
La levure ale qui consomme très vite. Que tu utilises tout le temps, là, celle qui consomme
la 40.
La Gvec, merci. Mmh. Wow, j'avais un trou de mémoire. Oui, sauf la Gvec qui, en deux jours, bon, ben, a tout bouffé. Ouais. Non, j'exagère, mais vous m'avez compris. Hein. L'avantage qu'on a donc avec ces basses températures, c'est que ça ralentit la création de diacétyl et d'acétaldéhyde, qui sont deux faux goûts qu'on peut retrouver dans la bière. Et moi, dans tout ça, eh bien, j'ai pas pu mettre ma bière à fermenter très longtemps. J'ai pu la mettre à fermenter que 3 semaines avant de l'enfûter. C'est ce que je te disais tout à l'heure, dans mes fûts de 5 et 10 litres de chez Mangrove Jacks. Et dans quelques bouteilles.
Ouais.
Non, mais j'ai arrêté de faire chier les gens avec ça. Pardon les gens.
Non, mais c'est drôle. C'est un truc de répétition.
C'est vrai. Ça me fait rire. À la force, tu pleures tellement c'est drôle. Ouais. J'en ai marre, arrête. Mais encore une fois, comme j'ai utilisé de la serviciae, il me semble que ça n'ait pas été trop grave. Attention, je tiens quand même à te dire que le paquet recommande une fermentation de 1 voire 2 mois. Hein. Donc même sur cette serviciae-là, on est sur une serviciae pour des bières de type lager. Mmh. Il va donc falloir que je rebrasse à nouveau cette bière en respectant la période de fermentation et je te dirai si elle goûte meilleur. Alors on va déjà faire, comme on a dit tout à l'heure, attendre que le fût il vieillisse d'une certaine façon, hein, même si on est dans l'inox, dans du froid. Mmh. Mais je referai aussi la recette que j'adapterai peut-être un peu, surtout au niveau des houblons, à voir quand je les mets, etc. Bon, peu importe.
Okay.
Et je la laisserai dormir un peu plus longtemps. Il faudra aussi que j'essaye de brasser une lager avec une souche de Pastorianus. J'irai voir chez l'Allemand ou Fermentis, entre autres, pour trouver l'élu de mon cœur.
Ouais, je crois que... Alors, deux têtes. Je l'ai noté, mais c'est quand même deux têtes que j'ai noté ça. Deux têtes chez l'Allemand, ils ont une levure lager qui est mi-Serviciae, mi-Pastorianus.
Ouais.
Qui est leur cristal, quelque chose là. Chez Fermentis, en revanche, j'ai regardé ça très récemment. Ils ont une levure lager qui est 100% Pastorianus.
Ok.
En levure sèche. Hein.
Ok.
Donc voilà.
Bah, j'irai peut-être du coup chez Fermentis.
D'ailleurs,
j'aimerais tester vraiment qu'une Pastorianus. Quoi.
Ouais, ouais. D'ailleurs, si tu brasses une lager avec Pastorianus, il y a de fortes chances que tu sentes du soufre de ton fermenteur. Hein. C'est une odeur d'œuf pourri.
Oui.
Ah mais merde, ça c'est toi qui le dis.
Oui.
J'étais en train de dire putain, mais j'ai jamais écrit ça.
Non.
Ok.
Eh ben je vais reprendre. Hein. D'ailleurs, puisqu'on ne l'a pas dit, si tu brasses une lager avec Pastorianus, il y a de fortes chances que tu sentes une odeur de soufre de ton fermenteur. Cette odeur d'œuf pourri. Mmh. How to Brew nous informe, Marco, que ce n'est pas si grave. Hein. Le soufre fortement volatile sera parti au moment de l'embouteillage.
D'accord. Et ouais, donc ça disparaît sur les. Peut-être sur le lagering, quoi.
Ouais.
Ok.
Ouais. Oui. Je pense qu'il faut effectivement laisser le temps du lagering pour que le soufre se crée et disparaisse.
Ouais,
parce que si tu embouteilles plus tôt, peut-être que ça se recréera en bouteille.
Ouais.
À confirmer. Ouais.
Et surtout qu'en bouteille, ça ne peut pas s'échapper, alors qu'en lagering.
Exactement.
C'est censé.
Et oui.
Il y a
toujours un blue blooter par-dessus qu'on appelle
Le
barboteur, le podcast, qui ne brasse pas que.
C'est bien trouvé ça comme nom. Hein.
C'est vrai.
On est vraiment.
C'est
pas
toi
mal,
qui l'as trouvé. J'étais tellement fier de toi.
Sauf que maintenant, on fait de la. Enfin bon, bref.
Allez, moi, j'ai pas pu observer ce phénomène. Et tu sais pourquoi ? Grâce à notre ami Serviciae.
On le sent pas, hein. Je te confirme.
Il n'y a pas de faux goût, il n'y a pas de soufre.
Non.
Il peut quand même y en avoir des faux goûts qui peuvent apparaître si tu brasses une lager. Ils ne sont pas différents de ceux que tu peux retrouver avec une ale. Hein. J'en ai déjà parlé sur un autre sujet un peu chiant où j'avais un peu cité tous les faux goûts et dire ça vient d'où ? Grosso modo, hein, hygiène et température.
Ouais.
Donc, on parle de diacétyl, de DMS ou d'alcool de fusel. Plus principalement pour les lagers.
Ouais.
Il y en a d'autres, principalement ceux-là. Mmh. Et donc, si tu as une hygiène irréprochable, j'ai un peu spoilé ce que je vais dire, et que tu as toujours ces faux goûts, il ne faut pas chercher plus loin. Il faut vraiment investir dans du contrôle de température.
Ouais.
Hein, surtout sur des Pastorianus. Mmh. Les Saccharomyces Pastorianus, elles aiment le froid. Ils aiment le froid. Des levures, une levure. Elles aiment le froid. Et elles aiment qu'on leur laisse du temps.
Ouais.
Alors, bien heureux suis-je d'avoir mes fermenteurs, GF30, avec mon refroidisseur au glycol GC2. C'est un investissement, c'est vrai, mais ça en vaut la peine. Et si t'as pas envie de te ruiner, tu peux toujours prendre l'option du frigo à bricoler avec un support de chauffe, le tout relié à une multiprise thermomètre qui active l'un ou l'autre des équipements branchés, donc ton frigo ou ta chauffe, en fonction de la température réglée. Marco, tu pourras nous en parler.
Le Inkbird. Le Inkbird.
Exactement.
Ouais, plus tard.
Oui. Enfin bon, hein, vous lui poserez la question, vous en parlera. Ouais. Voilà qui conclut mon tour des lagers. Un petit rototo d'IPA. C'est une... rototo, c'est quand même... Non, c'est comme... Bref. Ça fait pas très sérieux, quoi.
C'est mignon.
Oui, alors, écoutez, petit rototo d'une IPA, n'est-ce pas ? C'est un sujet encore vaste à explorer. Mais au-delà de la théorie, je pense que c'est plus en pratique qu'il faut l'explorer. Mmh. Hein. Parce que la théorie, mine de rien, on n'a pas fait le tour.
Ouais.
Mais on
a introduit
pas loin.
Le sujet.
Ouais,
quoi.
Non, mmh. Mais après,
enfin,
c'est
sûr. Introduit le
sujet. Mmh, j'ai introduit. Mmh. Je tiens à féliciter une dernière fois. Pas du tout. Je tiens à citer une dernière fois le livre de John J. Palmer, How to Brew, qui m'a beaucoup appris. Certaines choses très académiques et encore. Ou encore d'autres tableaux très intéressants dont je n'ai pas parlé dans ce sujet, hein, parce que expliquer un tableau, c'est chiant. Mmh. Par contre, je te recommande vivement, si vous lisez en anglais, de vous procurer cet ouvrage.
Ok.
Jean de La Fontaine. Bon. C'est dommage de conclure là-dessus.
Il n'y avait aucune rime.
Non. Bon, ça, c'est la fin.
Ok.
Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Oh !
Hein ?
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles ! Reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
Baba ! C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
Eh bien, merci Nico pour ce sujet sur la lagueur.
Avec plaisir.
Je suis assez surpris, moi, parce que. En vrai, tu m'en as parlé, j'y croyais. Enfin, je me suis dit, il va brasser une lagueur, ça va foirer. Ça va pas avoir goût de lagueur, ça va être trop sucré, et ça va avoir goût de triple belge.
Mais j'avais prévu, mon pote Olivier, que, ouais. Hey, si ça se trouve, ouais. Il aurait dû aller chercher Heineken au magasin.
Ouais, ouais. Mais ça, non, je suis. Enfin, vraiment, je suis agréablement surpris. Donc, bravo.
Merci déjà. Beaucoup. Je suis content aussi.
Bravo, bravo. Je me pose quand même, puisque là, on est sur la période débrief
oui.
De tes sujets.
C'est vrai. Vous moi, qui êtes sur Apple Podcast, que... vous voyez le menu.
Ouais, parce que alors, moi, le peu de fois où j'ai tenté des pils... peu de fois.
Des pils ou des lagers ? Restons en plus.
Lagers et pils.
Ok.
Okay. Bon, là, bon, des lagers, là... restons plus général.
Non, mais après, c'était peut-être vraiment spécifiquement
une pils. C'est plus spécifique, la pils.
Oui.
Tout à l'heure, là, je fais l'amalgame entre les deux, en off ou dans le podcast.
Non, mais c'est pour vraiment savoir si tu voulais vraiment faire une pils ou si tu avais décidé de faire une lager.
Je voulais faire une lager.
D'accord, ok.
C'est okay. Plus général que ça, okay. C'est pas une pils spécifique.
D'accord, d'accord.
Moi, ce que j'en ai vu de la lager, enfin, ou de la pils pour être plus précis,
oui.
J'ai vu très souvent, notamment pour ne pas les citer, chez Fauve, c'est dans oui. Les recettes de Brassam,
de Brassam.
Là, on avait déjà évoqué, mm-hmm. Ils ont une pils dedans et ils font ce que j'ai vu plein de fois chez d'autres brasseurs amateurs, c'est-à-dire qu'ils prennent au moment de la filtration. Donc tu vois, tu as l'empattage. Au moment de la filtration, en fait, ils passent un tiers. Et ce tiers-là, du mou, ils vont le mettre à ébullition et le remettre dans la cuve d'empattage pour repasser ce mou-là. Donc, ça va refaire remonter la température. Et en fait, tu le fais pas. Et je me suis dit, en fait, vu qu'il fait pas ces trucs-là, ça doit pas marcher. Il va pas avoir ce goût céréal, tu vois. J'avais du mal à associer ce goût très céréal. Mmh. Or là, t'as un goût céréal qui est hyper franc et tu l'as pas fait, je suis assez surpris quoi. Donc voilà, est-ce que tu avais vu ce truc là, qu'est-ce que t'en penses?
Alors je l'avais pas vu, donc j'irai fouiller
ouais.
Ce truc là un peu plus finement, je sais pas mm-hmm. Le terme, mais bref, Moi, je vois déjà une complication au niveau de mon brassage, c'est que sur le G40, là, ça va être chiant de sortir. Enfin, même si,
c'est vrai qu'il faut une casserole séparée dans la
non,
cuisine.
Oui, effectivement, oui, pour le remettre à ébullition, oui, je pourrais, ce serait chiant à côté. Ouais. Mais même au niveau de le sortir, et j'allais dire non, si pour le sortir, finalement, j'ai la pompe, j'ai le filtre, je peux sortir avec le robinet que j'avais installé spécifiquement en bas là, du tube de mesure.
Ouais.
Vous regarderez les images si vous savez pas de quoi je parle. Et je savais pas ce truc-là. Mm-hmm. Et quand j'ai fait la Pils-ish, est-ce que j'avais regardé... Non, je crois que j'avais pas regardé justement How to Brew, qui parle pas de Pils en particulier, mais de Lager, ou alors peut-être plus tard dans des chapitres que j'ai pas encore regardé.
Ouais.
Mais j'avais principe... Attends, mais je me pose la question. Comment j'ai fait ma recette, moi ? J'ai pris l'application de Grainphaser.
Ouais.
Je me suis dit que j'avais du Pilsen à la maison et que c'était la base de céréales qu'il fallait. Donc, j'ai mis du Pilsen en grosse quantité. Mm-hmm. J'ai mis un peu de pale pour essayer d'être dans les mesures qu'il faut par rapport à...
Au BJCP.
Exactement, au BJCP. Ouais. Et tu sais, quand tu fais ta recette, ça doit être sur la même chose.
Oui, avec l'application, elle se base sur le BJCP.
Exactement. Ouais. Mm. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des courbes, enfin, t'as des lignes de... Comment on appelle ça, là ? Des espèces de lignes, là, où tu dis plus, moins, et t'es où ? Enfin, t'es à... T'as des écarts de machin pour l'IBU, pour machin ma couille.
Et t'as des cotes mines, des cotes max, et on voit où tu te situes par rapport à cette.
Ouais, mais les barres, c'est un nom, les barres, là.
Oui,
Bon, peu importe.
Ouais.
Voilà. Il y a ces trucs-là.
On fait de l'informatique, c'est bien, on ne connaît pas du tout, bravo. Bien joué, les gars, franchement.
Exactement.
Changez rien.
C'est ça. Et donc, je voulais être dans les clous. Donc, j'ai jonglé avec la quantité de pils et la quantité de pale que j'ai.
Ouais.
Je voulais pas racheter non plus trop de céréales non plus parce que j'avais pas le budget et que je voulais pas non plus faire payer trop cher à mon collègue parce qu'il m'a rémunéré les ingrédients que j'avais utilisés.
Ok.
Et j'ai vu que pour les pils, c'était principalement du SAS qui était utilisé en République tchèque.
Ouais.
Donc je me suis dit que j'allais utiliser que du SAS, donc j'en ai commandé. Et pareil au niveau du SAS, alors par contre ça, comme je sais plus si je l'ai dit pendant le sujet, mais je l'ai fait vraiment à l'arrache. Hein, j'ai regardé, j'en ai mis au début, j'en ai mis au milieu, j'en ai mis à 55 et à 35, je crois.
D'accord.
Et j'ai regardé ce que ça faisait en cours par rapport à la quantité que je mettais en me disant, ouais.
D'accord.
Mais vraiment.
Je crois qu'il y a des temps qui sont optimaux. Hein. Je vais te dire des bêtises, mais je crois que c'est 1h, 20 minutes et 5 minutes. À revérifier, mais il y a vraiment des temps.
J'avais vu des recettes, moi, il y en avait 3 justement.
Ouais. Oui, c'est ça, t'as 3. T'as 1h, 20 minutes et 5 minutes.
Ah, ok.
Je crois que t'as des pics.
Mais j'ai vu des pics aussi qui se créent parce que, pareil, quand tu mets ton houblon avec tes quantités, t'as un autre graphique qui arrive, un peu logarithmique sur genre boum, et puis après, ça fait une espèce de courbe descendante un peu ronde. Bref, bon, faut que je pousse là-dessus. Okay. Et donc, j'avais fait ma recette un peu comme ça, et donc j'avais pas été voir effectivement ce qu'aurait pu faire Fauve, et alors qu'on en a parlé plein de fois.
Ouais.
Ou d'autres. Et la saison, je m'étais basé sur le livre de Yaga, par exemple, et sur la recette d'un autre YouTuber écossais.
Dont tu m'as déjà parlé. Et dont
j'ai le nom sur le bout de ma langue, mais ça passe pas. Je suis désolé.
C'est pas grave.
J'en reparlerai.
Ouais.
Je m'étais basé sur eux, et là, non, j'ai voulu faire ça tout seul. Et pour répondre à ta question, j'ai donc été fouillé sur le bouquin là, de How to Brew. Et donc, pour les pils, donc plus généralement les lagers, comme on disait, ce que j'ai pu lire dans l'ouvrage, c'est surtout de contrôler le pitch rate et de faire un starter. Donc, le pitch rate en français, c'est le taux d'ensemencement. Hein, et le starter, c'est le pied de cuve. On en a déjà parlé, ça aussi. John, parce qu'on est intime.
Maintenant, oui.
Exactement. Il nous dit que pour avoir les meilleures et les plus efficaces levures de lager, c'est d'ensemer deux fois plus que ce qu'on ferait avec une ale.
Ah oui, d'accord.
Et donc, il y a un tableau qui est proposé, d'ailleurs, justement, avec les densités, avec les températures, avec plein de trucs. Enfin, les durées plateau, pardon, et d'autres choses pour dire ce qu'il faudrait que tu fasses.
Ouais, ok.
Moi, j'ai bêtement suivi ce qu'il y avait sur mon paquet. Hein, et de toute façon, j'avais de la service CAV, j'en ai déjà parlé.
Ouais.
Et aussi, il recommande de faire un starter pour que la levure se multiplie. Et il recommande de la faire multiplier entre 3 et 5 degrés de plus que la température prévue de fermentation.
D'accord.
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, dans le sens où je me pose une question. C'est que, imaginons, mes levures, elles sont entre 10 et 15 degrés, celles que j'ai en tout cas. Mm-hmm. Si je les mets 3 à 5 degrés de plus que le maximum prévu de fermentation. Ouais. Donc entre 18 et 20 degrés. Mmh. Est-ce que ça ne va pas les stresser, justement ?
Ouais, on peut imaginer que si, puisque...
Parce que moi, c'est... Donc il faudrait que je fouille un peu ce truc-là.
Peut-être qu'il y a une histoire de... Tu sais, au démarrage, tu as quand même une notion de multiplication. C'est-à-dire oui. qu'il reste de l'air dans le fermenteur.
Je suis d'accord.
Ou tu injectes de l'air. Et donc ça va se multiplier. Oui. Et ensuite, tu baisses pour... Là, tu n'es plus en phase multiplication, tu es en phase fermentation.
Ouais.
Peut-être que c'est ça, tu vois, sur la phase multiplication...
Oui, de toute façon, un pied de cuve, effectivement, c'est la multiplication des ouais. semences, ça je suis d'accord, mmh. pour avoir une densité de levure optimale, pour après les mettre dans ton moût. Mais je me dis quand même, 3-5 degrés de plus, mmh. est-ce que...
Oui, je pense qu'il ne faut pas le laisser comme ça, en tout cas, si c'est pas prévu comme ça par le levurier...
J'en sais rien, lui il en parle, et c'est, faire, c'est quand même la bible des brasseurs, hein. À chaque fois que je vois... Enfin, dans le monde anglophone, en tout cas, c'est le livre des références. Et puis, pareil, il est épais, il est sur sa quatrième édition, il a l'air d'être lu, relu et révisé. J'ai plutôt confiance à ce qu'il raconte.
Ouais.
Par contre, je me pose des questions. Effectivement, ça a l'air d'être un peu bizarre.
Ouais.
Bon, bref, il recommande ça.
Okay.
Ensuite, évidemment, refroidir toute une nuit pour stabiliser le mou, enfin, le pied de cuve. Et après, remettre ça dans ton fermenteur comme il okay. faut, comme on fera un pied de cuve... qu'on fait jamais nous au demeurant. Faudrait qu'on essaye un de ces quatre d'ailleurs. Je sais pas si tu as essayé toi, mais moi j'ai jamais essayé.
Ouais, moi j'ai fait à une époque.
Ouais.
Joker.
Non, parce
qu'en fait j'ai pas remarqué de.
Ouais.
Alors certaines levures, alors j'utilise beaucoup l'allemand.
Oui.
Comme ça on cite les marques et tout.
Allez, faisons
le plaisir. Allez, on y va. Je suis sponsorisé à l'allemand, je vous envoie mon rib. J'utilise beaucoup l'allemand et l'allemand c'est très documenté, donc tu as des levures où ils t'encouragent à faire des pieds de cuve, enfin, ils te recommandent de faire des pieds de cuve, d'autres où ils te disent vraiment tu prends le sachet, tu coupes, tu mets dans ton moût, terminé. La Kveik en l'occurrence, pour pas la citer, tu prends ton sachet, tu mets dedans, terminé. Ils te recommandent pas du tout de faire de pieds de cuve, ce qui t'empêche pas d'en faire une, notamment si t'es un peu short en, tu vois, mettons si t'as 30 litres et t'as qu'un sachet, bah, il faut faire un pied de cuve, là il y a pas le choix quoi. Mais si vraiment tu as 19 litres, un sachet, j'ai plus trop en tête, mais je crois que c'est bon. Tu peux mettre un sachet.
Oui, ça dépend du levure, mais effectivement,
confirmer
ça
de la densité
ça,
et tout. Ouais. Mais normalement, ça passe. Quoi.
Moi, je crois que mes sachets, pour en tout cas, les deux, donc c'est du mangrove, les deux que j'ai, Saison et Bohemian Lager, c'est pour du 23 litres à chaque fois, les deux.
Ouais.
Donc, effectivement, c'est par sachet. Et eux, ils disent, ouais, mais le dedans directement, on s'en les couilles. À voir, bref.
Okay.
Et donc, je termine en disant que ouais, le bouquin fait 600 pages. J'ai pas encore tout lu, donc si ça se trouve, il en parle ailleurs, mais j'ai pas vu quoi. J'ai pas vu.
Ok. Justement, puisqu'on est dans les trucs, dans les croyances, entre guillemets.
Ouais.
Là, moi, c'est plutôt sur l'aspect fermentation.
Ouais.
Et justement, pour faire partir cette odeur soufrée, et peut-être cet aspect, tu vois, aujourd'hui, on sent trop les céréales dans la bière que t'as faite.
Ouais.
Les deux aspects. J'avais
trop
lu. Ouais.
Bien pour moi. Moi, j'aime bien.
Oui,
trop okay. peut-être okay, par rapport okay. à la cible.
Par rapport
bon.
À mon,
ouais, voilà, okay. bon.
à mon ressenti. J'avais lu que certains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils augmentaient progressivement le palier de lagering, le palier de température pour le lagering, et ils augmentaient de 1 demi-degré à 1 degré par jour jusqu'à atteindre une vingtaine de degrés avant l'embouteillage, justement, et ça favorisait justement ce lagering en douceur entre guillemets, qui remonte progressivement les températures, tu stresses pas les levures, mais ça me paraît bizarre parce que les levures elles sont déjà
normalement il y en a plus beaucoup,
ouais c'est ça. Donc voilà, est-ce que t'as lu ce truc là, est-ce que t'as entendu parler
Alors il y a deux choses, j'ai dit il y en a plus beaucoup, oui et non, hein, parce que si on resucre en bouteille c'est qu'il y en a encore,
oui il y en a encore, mais elles n'ont plus rien à manger entre guillemets,
ouais ok, ça ok, je suis d'accord. Mais est-ce que monter la température, ça ne stresse pas non plus ? Est-ce que ce n'est pas propice à créer de faux goûts ?
Ouais.
Moi, je suis un peu étonné parce que tu me dis, donc il faudrait que tu montres là où tu as vu ça et qu'on investisse.
Mm-hmm.
Et
qu'on investigue plutôt.
Ouais.
On ne va pas encore investir, ça suffit maintenant.
Allez, non, on avait... bref. Ouais.
Non, qu'on investigue.
Oh là là, mon Dieu. Ouais. Donc, ce que j'ai noté, moi, c'est qu'à l'inverse, pour le lagering, John, toujours, il parle plutôt de baisser la température de 6 degrés max par jour.
6 degrés max par jour.
Ça me semble beaucoup.
Ah, genre, ok, je veux dire, le premier jour quand tu.
Bah, imagine, t'as 12 degrés, tu baisses de 6 en une journée. Ça, en fait, c'est pareil. Ça
c'est une tolérance des levures, quoi, c'est ça qu'il veut dire.
Non, ce qui veut dire, c'est que tu vas baisser la température jusqu'à atteindre les 2 degrés.
D'accord.
Et tu baisses jusqu'à 6 degrés max. Alors, je pense que c'est la fourchette haute. Et d'accord. Je pense qu'il aurait peut-être pas dû... Alors après, c'est ma faible expérience, encore une fois. Dire 6, pour plusieurs raisons. Déjà, en 2 jours, tu as fini. Tu as atteint 2 degrés, puisqu'on parle d'une lager, donc elle est déjà assez basse. De par mon fermenteur personnellement, avec le barboteur que j'ai au-dessus, si je baisse trop rapidement, il y a de l'arrivée d'air. Parce que ça se rétracte.
Ouais.
Et donc, ça fait un appel d'air. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, sauf que c'était pas 6, c'était 3 degrés par jour, ce qui était conseillé encore une fois par le support de Grandfather, qui m'avait bien conseillé. Et donc, ils disent de faire ça. Ils disent de faire 6 degrés par jour, ils disent de baisser pour le lagering, et ils disent d'aller sur un lagering à froid. Et de toute façon, c'était la définition que j'ai aussi donnée au départ, tout lager en allemand, dans des lagers, les entrepôts, c'était stocker à froid la bière. Donc je vois pas de montée en température moi dans cette histoire allemande.
Okay.
Et donc les 6 degrés max c'était évidemment pour éviter le choc thermique parce que qui dit choc thermique dit création de je sais plus quoi je l'ai lu mais je l'ai pas noté qui provoque des faux goûts.
Ok.
Qui peut provoquer des faux goûts. Donc ouais bah faut recouper un peu tout ça c'est un peu contradictoire en tout cas.
Ok. Bon au bilan je crois qu'on peut dire quand même que satisfait de ta bière quand même.
Oui.
Elle a fait son office. Je sais pas si on l'a dit tout à l'heure enregistré.
Oui.
Mais le degré d'alcool.
Oui, il est bas. Oui, 2,89 si j'ai. Ouais. D'après la calculette.
Et ça m'a pas forcément choqué au goût. En tout cas, le côté très céréalier était très présent. Et peut-être ça se trouve c'est ça aussi qui vient pas contrebalancer l'aspect céréal, c'est que c'est très céréal. Et en même temps, il y a peu d'alcool entre guillemets. C'est en dessous de 3 degrés.
Ouais.
J'ai l'impression que ça a quand même satisfait les gens. Toi, tu as l'air content de ce que
tu as
fait.
Alors, au boulot, il y a 5-6 personnes qui l'ont goûté. Il n'y avait pas grand monde ce soir-là. Il a oublié de relancer les gens, donc il n'y avait pas plus de monde. Ce qui n'était pas un mal, étant donné qu'on a bien plus pu se partager 5 litres à 6 qu'à 20, tu vois.
C'est vrai.
Donc l'un dans l'autre, on était contents. Encore une fois, moi, sur les 5 litres, j'avais un peu plus de petites bulles.
Ouais.
J'avais beaucoup moins de mousse. Et j'avais un côté céréalier, certes, mais un côté floral un peu plus présent que je n'ai pas forcément dans les 10 litres qu'on a goûté là.
Oui.
Donc, assez surprenant, puisqu'on est sur la même bière, sur le même fermenteur, sur le même tirage.
Ce qui n'est pas très étonnant, puisque c'est ce que je te disais tout à l'heure sur la bière qu'on a bu aujourd'hui de Jukebox. C'est que hier, je l'ai bu en pression. Et j'avais l'impression qu'on sentait beaucoup plus le houblon vert que ce qu'on sent là aujourd'hui en canette, même si on le sent encore un petit peu.
Ouais.
C'est pas totalement le même goût, quoi. C'est pas étonnant, c'est pas les seuls. Il y a plein de bières où tu les prends en tireuse, c'est hyper, hyper vif comme arôme, et puis tu le prends en canette ou en bouteille et t'as l'impression d'avoir perdu quelque chose en route.
Ouais, je comprends.
Voilà, c'est tout sauf un échec, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais.
Oui, bah, du coup,
c'est pas la même chose, quoi, tu vois.
Oui, je suis d'accord.
Non, c'est pas pareil.
Et donc, pour répondre à la deuxième question que t'as peut-être pas citée, sera sur Little Book.
Tu nous donnes la recette maintenant, ça suffit.
Et sur Grandfather, même si ça a l'air d'être chiant de rechercher des recettes sur Grandfather.
Ouais.
Donc, ça sur les
sites. Montré une fois, ça a pas l'air.
Oui. Quand tu partages ta recette, ça te dit, hey, ok, merci. C'est pas dit qu'on la trouve. Littéralement. Alors, non, pas littéralement, mais. Les petites lignes, ça veut dire ça, quoi.
D'accord.
Voilà.
On l'a référencé quelque part.
Faut qu'ils améliorent ça, quoi. Bon, bref. Ouais. Voilà, t'as d'autres questions ou...
Non, je crois qu'on est pas mal, là. Okay. Merci, Nico.
Et avec plaisir.
C'était le 8e épisode de la saison 3 du Barboteur, le podcast qui ne brasse pas que du vent.
Quel que soit votre budget, quel que soit votre niveau de connaissance, quelle que soit la place que vous avez, on vous encourage à brasser et à rester curieux sur les innombrables bières concoctées par vos petites brasseries locales.
Petites ou grandes.
Vous pouvez nous retrouver sur Discord où on sera très content d'échanger avec vous sur la bière et l'univers du brassam, sur Instagram, Mastodon ou encore lebarboteur.biz.
Et si vous voulez nous aider, vous pouvez toujours nous payer une bière sur Ko-fi et nous mettre un petit commentaire, ou un grand d'ailleurs, avec des petites ou des grandes étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ou encore, partagez nos épisodes avec vos potes, beergeek/brassam.
c'était Marco et Nico. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Et peut-être même avant. Oh, on l'a trop bien fait, mon gars.
Lambic. Les versions jeunes peuvent être assez acides et fruitées, mais peuvent développer des arômes de saveur d'étable, de terre, de foin, de cuir de cheval, avec de l'âge. Le caractère du fruit peut prendre une qualité légère d'agrumes, d'écorce d'agrumes, de pommes ou de rhubarbe, de plus en plus complexe avec l'âge. Le malt peut avoir une légère qualité de pain, de granules, de miel ou de blé, s'il est perceptible, mais pas de houblon.
German Pils. Houblon fleuri, épicé ou à base de plantes modérément à modérément élevées. Caractère de malt faible à moyen, sucré au goût ou goût de pâte. Des pâtes à tarte. Souvent avec une qualité de miel léger et des craquelins grillés. C'est quoi les craquelins? Très bien. Profil de fermentation propre. Le houblon devrait être présent mais ne pas dominer totalement le malt dans la balance.
Hazy IPA ou NEIPA. Arôme intense de houblon avec des fruits à noyaux, des fruits tropicaux, des agrumes ou d'autres fruits, mais pas herbeux ou à base de plantes. Malt peu perceptible, neutre, légèrement toasté en arrière-plan, pas de caramel ou de pain grillé. L'absence de tout caractère malté est une faute. Caractère de fermentation neutre à fruité. Arôme d'alcool léger en option.
Ok, triple belge, bouquet complexe mais homogène d'épices de force modérée à significative. Des esters de fruits et modérés, peu d'alcool, peu houblonné et malt léger. Des phénols généreux, épicés, poivrés, rappelant parfois le clou de girofle. Les esters rappellent souvent les agrumes comme les oranges ou les citrons, mais peuvent parfois avoir un léger caractère de banane mûre. Un caractère houblonné, épicé, floral, parfois parfumé, faible mais distinctif et facultatif. Les alcools sont doux, épicés et de faible intensité. Le caractère du malt est léger avec une impression douce, légèrement granuleuse ou légèrement mielée.
Bière de garde, malt présent, souvent avec un caractère complexe, léger à modéré. Un caractère grillé, ester faible à modéré. Houblon faiblement épicé, poivré ou herbacé en option. Généralement assez propre, bien que les versions plus fortes puissent avoir une note d'alcool légère et épicée au fur et à mesure qu'elles se réchauffent. Les versions plus pâles sont encore maltées, mais manquent d'aromatiques plus riches et plus profondes et peuvent avoir un peu plus de houblon.
Grape Ale. Les caractéristiques aromatiques du cépage vinicole sont perceptibles mais ne devraient pas dominer. Le caractère du raisin devrait bien se fondre avec le caractère de malt de base sous-jacent. Bien que l'arôme de houblon soit généralement limité, il peut aller de moyen à faible à totalement absent. La fermentation est généralement assez propre mais peut contenir des épices délicats et des esters fruités. Tu vois, la bière blonde, c'est pas un style.
Ah bah non, c'est clairement pas un style.
On est d'accord.